France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, notre moi est-il aussi monolithique qu'il en a l'air ? Fernando Pessoa disait de lui-même ceci : j'ai créé en moi diverses personnalités. J'en crée constamment de nouvelles. Pour créer, je me suis détruit. Je me suis extériorisé au-dedans de moi, à tel point qu'en moi, je n'existe plus qu'extérieurement. Je suis la scène vide où passent divers acteurs jouant diverses pièces. Fin de citation. Question : serions-nous tous un peu comme l'auteur du livre de l'intranquillité ? C'est-à-dire doté d'un moi n'ayant rien d'unique, d'insécable, d'atomique. Se pourrait-il que nous soyons en réalité plusieurs, une sorte de bande organisée, enfin plus ou moins organisée, se manifestant différemment selon les moments de nos vies? Se pourrait-il que notre moi ait en somme ceci de commun avec les trains, qu'il soit capable d'en cacher d'autres? Pour répondre à ces délicates questions, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Bayard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur émérite de littérature à l'université Paris 8 et vous venez de publier aux éditions de Minuit un livre passionnant qui s'intitule « Je somme plusieurs sur les personnalités multiples ». Et donc j'ai envie de vous poser une première question, Pierre Bayard, que je ne devrais pas vous poser car je devine que la réponse va être longue et complexe. Mais qui êtes-vous ?
Alors Descartes répondrait « Je suis René Descartes ». Freud serait déjà plus prudent avant de répondre « Je suis Sigmund Freud ». Mais il existe une théorie parallèle à celle de la psychanalyse qui fait que la réponse est encore plus compliquée. C'est la théorie des personnalités multiples dont nous allons parler, qui ne se contente pas de percevoir comme Freud un moi divisé, déjà anticartésien, mais un moi en quelque sorte pulvérisé en différentes personnes qui, à tour de rôle, occupent le poste de commandement.
Mais alors aujourd'hui, vous êtes venu à combien ? Parce qu'en vous lisant, on devine que vous vous considérez vous-même comme quelqu'un d'assez multiple.
Alors je vais tenter de rester sur l'un des personnages qui m'habitent, sans trop me multiplier. Mais c'est vrai que la question de la multiplicité des personnes s'est posée. En France, à la fin du 19e, au début du 20e, aux États-Unis, et bien plus tard, une théorie qui est intéressante, séduisante, mais qui n'a jamais eu beaucoup de succès en France.
Avant d'en parler, je vous propose qu'on fasse un petit détour, Pierre Bayard, en tirant un peu sur la corde, et en parlant des anagrammes, parce qu'on peut considérer qu'elles révèlent les multiples personnalités cachées d'une phrase, dont le sens est a priori univoque. Par exemple, « carpe diem ». Carpe diem, c'est un dicton qui est souvent présenté comme la recette du bonheur. Mais quand on découvre que son anagramme, c'est ça déprime, ça change la lecture qu'on fait de ce dicton comme si cela laissait entrevoir une personnalité différente du propos. De même, si je dis les crocodiles n'ont rien lu et que je découvre que c'est l'anagramme de collisionneur d'électrons, ça laisse penser que cette phrase a priori univoque, derrière elle, toutes sortes de sens cachés, comme les mois cachés des personnalités multiples. Et puis, si je dis que la crise économique a pour anagramme le scénario comique, ça change aussi un peu la donne. D'où ma question, Pierre Bayard, est-ce que vous connaissez l'anagramme de les personnalités multiples ?
Non, j'ai jamais essayé.
Elle a été trouvée par Olivier Garcia. Elle va vous étonner, je pense, ou vous plaire. Les personnalités multiples mêlent les pulsions à l'esprit. Voilà. Alors ça, c'est quoi ? C'est la théorie unitaire de Freud ou...
Du côté des pulsions, je serais plutôt tenté de mettre Freud, qui divise le moi en un jeu interpulsionnel. Pulsion de vie, pulsion de mort, ou bien en un jeu d'instance. Le surmoi, le moi, le ça. L'intérêt, l'étrangeté de la théorie alternative, celle des personnalités multiples, c'est de remplacer ce conflit pulsionnel par un conflit interpersonnel. avec cette idée que nous ne sommes pas seulement divisés entre des instances, entre des forces à l'intérieur d'un moi unique, mais divisés entre des êtres qui se comportent comme des personnes différentes et qui, de surcroît, parfois ne se connaissent pas et se découvrent dans certaines circonstances.
Et c'est cela que vous appelez le modèle plural.
Voilà, et donc c'est un modèle plural, alors que le modèle de Freud reste relativement singulier.
Il y a ce texte de Paul Valéry que vous ne citez pas, mais que vous auriez pu mettre dans votre livre, un texte qui s'appelle « Mélange », dans lequel Paul Valéry écrit ceci « Selon l'heure, naïf, absurde, aimable, étrange, esclave d'une mouche ou maître d'une loi, un esprit n'est que ce mélange duquel, à chaque instant, se démêle le moi. » Là, c'est plutôt une théorie du mélange.
Alors, dans tous les cas, on a la contestation du modèle cartésien. Cette contestation du modèle cartésien, elle va s'accentuer à la fin du XIXe siècle, aussi bien chez les psychiatres que chez les écrivaines, les écrivains, les artistes. Regardez d'autres auteurs comme Maupassant, comme Stevenson, comme Oscar Wilde. Tous ces auteurs vont réfléchir sur ces moments où le moi semble se troubler, se diviser. Et Valéry fait partie de tous ces auteurs qui ont réfléchi et qui ont proposé des modèles. Il y a un modèle qui est devenu dominant au début du XXe siècle, c'est celui de la psychanalyse. Je dirais qu'il était plus sexy que les autres, dans tous les sens du terme, à la fois parce qu'il s'intéresse à des phénomènes auxquels on ne s'était pas intéressé jusqu'alors, comme le rêve, mais également en raison du primat de la sexualité, également en raison de sa potentialité d'explication de phénomènes, et grâce à l'appui surréaliste notamment, il va l'emporter sur les autres. Mais les autres modèles sont intéressants aussi, sauf si on considère qu'un modèle psychologique doit s'appliquer à tout le monde. Et moi, j'aime bien étudier les autres modèles possibles, comme celui qui est en latence dans ce passage de Valéry. Et donc, d'une certaine manière, je fais une expérience de pensée sur les modèles psychologiques. Et si ça n'était pas le modèle freudien qu'il avait emporté, et si c'était un autre modèle, qui est celui des personnalités multiples, qui est né en France à la fin du XIXe siècle, qui a eu un certain succès, et puis qui a été écrasé par la psychanalyse.
Mais il a connu ses heures de gloire, qui continuent d'ailleurs aux États-Unis.
Alors, non seulement il connaît des heures de gloire aux États-Unis, mais il en connaît en France même, chez Proust. Alors, Proust est très clairement du côté de ce modèle des personnalités.
On va y revenir, mais avant, je voudrais qu'on revienne, Pierre Bayard, sur l'idée du livre dont vous dites que vous la devez à Picasso, ou plutôt à votre épouse visitant en votre compagnie une exposition de Picasso. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
L'anecdote est authentique. Nous visitions une exposition Picasso, avec évidemment un nombre considérable d'œuvres, et en plus des styles différents. Et ma femme a eu ce mot humoristique, ce n'est pas possible, ils étaient plusieurs, que j'ai pris évidemment dans sa dimension humoristique, mais aussi dans une dimension plus profonde, après tout, si nous étions plusieurs personnes. Ce qui est évident pour beaucoup d'écrivaines et d'artistes, mais qui peut-être aussi peut s'appliquer à chacun, chacune d'entre nous. Et donc c'est à partir de là que j'ai réfléchi sur cette question des personnalités multiples et que je suis parti revoir cette théorie alternative, dissimulée mais intéressante.
Mais c'est pas seulement une expérience de pensée, parce que vous montrez qu'elles sont parfaitement valides, en tout cas, qu'elles s'appliquent parfaitement à un certain nombre de cas. Et quand on pense aux personnalités multiples, on pense évidemment, d'abord au fameux livre de Robert Stevenson, Le cas étrange du docteur Jekyll et de Mr. Hyde, que tout le monde connaît sans vraiment l'avoir lu, j'ai l'impression.
C'est un livre qui est beaucoup plus compliqué que ce qu'on peut en penser. J'ai d'ailleurs eu beaucoup de mal à le résumer tellement il est complexe. Mais ce qui est intéressant, c'est que Freud ne l'a pas lu. Il ne l'a pas lu alors qu'il s'intéressait à tous ces modèles alternatifs qui circulaient en littérature, en art, en psychologie, à la fin du XIXe siècle.
Parce que si on regarde la chronologie de Stevenson et la sienne, il y avait un recouvrement, il aurait pu le lire.
Il aurait pu le lire, et je fais même, en guise de fiction, au début de mon essai, la fiction que Freud l'a lu et qu'il a construit un autre modèle que celui qu'il a proposé.
Mais en vous lisant, je vous ai cru. J'ai pas vu que c'était de la fiction. En fait, il ne l'a pas lu.
Parce que cette hypothèse est vraisemblable. C'est un homme très cultivé qui s'intéressait beaucoup à tout ce qui s'écrivait à son époque. Et il aurait pu, plutôt qu'être sensible à la théorie du double, être sensible à cette théorie des personnalités multiples qui est différente dans la mesure où ces doubles nous sont intérieurs. Et surtout, ce sont des véritables personnes avec une identité propre et non plus simplement des forces qui s'opposent en nous. C'est ça la grande différence entre la personnalité multiple et la théorie freudienne.
Alors qui est ce docteur Jekyll et quelle sorte de chimie utilise-t-il pour se transformer en quelque sorte physiquement et psychiquement en son contraire?
Alors, la recette chimique n'est pas communiquée dans le livre, hein, c'est peut-être préférable d'ailleurs, mais les effets de cette chimie, eux, sont décrits et nous montrent deux personnes totalement différentes, suivant d'ailleurs un modèle assez manichéen. Il y en a une qui est plutôt positive, l'autre qui est très négative, mais deux personnes vraiment différentes avec un corps unique. C'est ça le principe même des théories multiples, avec cette autre différence aussi, que contrairement au modèle freudien, qui est un modèle assez dual entre conscient et inconscient, là on a un modèle qui ne se limite pas nécessairement à deux personnes, et les Américains d'ailleurs vont l'accentuer en voyant plusieurs dizaines de personnes habiter ce même immeuble qu'est le corps.
Mais ces personnages différents, est-ce qu'ils communiquent entre eux, est-ce qu'ils se connaissent, ou est-ce qu'ils se succèdent sans qu'il y ait entre eux le moindre lien ?
Alors, tous les cas sont possibles, hein, mais très souvent, et c'est là l'intérêt de ce modèle, les différentes personnes ne se connaissent pas. Et donc, il y a une sorte de mécanisme inconscient, puisqu'elles ne se connaissent pas. Elles vont alterner au pôle de commandement du corps. Et parfois être très surprise de découvrir que l'autre personne existe.
C'est-à-dire qu'il y a une sorte de découplage entre les différentes phases. Mais l'idée de double, vous le dites très bien, vous l'avez rappelé d'ailleurs tout à l'heure, elle traînait déjà dans l'air à la fin du 19e siècle, notamment avec Dorian Gray, Oscar Wilde.
Alors l'idée de double traînait, mais la théorie des personnalités multiples, telle qu'elle est proposée par certains psychiatres et certains écrivains, va beaucoup plus loin. Et je reviens à Proust, si vous permettez, parce que lui est vraiment l'auteur qui va la mettre en scène de façon répétitive dans son œuvre. Ce qui n'est pas surprenant parce que Proust a lu Pierre Janet. Pierre Janet, c'est l'un des grands psychiatres de la fin du 19e et du début du 20e, très peu connu aujourd'hui, mais qui a été en rivalité avec Freud. Il a proposé un modèle de l'inconscient, il se considérait d'ailleurs comme le découvreur de l'inconscient, et ce modèle est entré en rivalité avec le modèle de Freud. Il y a un grand colloque de psychiatrie qui se déroule à Londres en 1913, dans lequel Janet vient exposer sa théorie contre les Freudiens. Alors Freud ne s'est pas déplacé en personne, mais l'a envoyé l'un de ses gardes théoriques, Ernst Jones, et l'affrontement va être très dur entre ces deux théories, la théorie de Janet et la théorie de Freud. Mais Proust, lui, n'a pas lu Freud, qui va commencer à être connu en France dans les années 20, et en particulier par les surréalistes. En revanche, il a lu Janet. Il va vraiment mettre en scène dans son œuvre cette théorie des personnalités multiples sous diverses formes. Les écrivains ne décrivent pas des modèles constitués, rigides, comme nous autres en sciences humaines. Ce sont des ébauches de modèles, ce qu'on pourrait appeler des pré-modèles dans une pré-théorie. Mais ce modèle de Janet, qu'on pourrait dire celui de la dissociation, il est très présent dans l'œuvre de Proust. Et je tentais de dire que les deux grands modèles du début du XXe siècle pour penser ces moments de divergence entre nous-mêmes et nous, c'est le modèle freudien et le modèle proustien.
Alors vous expliquez, en revenant sur son œuvre contre Sainte-Beuve, que la méthode de Sainte-Beuve ne marche pas, selon Proust. C'est-à-dire le moi d'un auteur qui écrit n'est pas le moi social qu'il montre aux autres, et on ne peut pas voir la corrélation qu'il peut y avoir entre le premier et le second.
Alors c'est l'un des exemples hein, d'illustration de la théorie de Janet chez Proust. C'est le plus connu, c'est la théorie de l'autre moi. Le créateur, la personne qui crée l'œuvre, est un autre moi que la personne mondaine. Et il y a un épisode extraordinaire dans Proust, que moi-même j'ai revécu dans une autre circonstance, peut-être aurons-nous l'occasion d'en parler, c'est l'épisode de Bergotte. Bergotte est l'écrivain favori du narrateur, mais il ne l'a jamais rencontré. Et lorsqu'il le rencontre...
Il n'a pas non plus vu de photo.
Voilà. Et lorsqu'il le rencontre, il est sidéré parce qu'il n'arrive absolument pas à créer un rapport entre cette personne qui est devant lui et l'écrivain idéalisé qui était l'auteur de l'œuvre. Et c'est l'illustration dans la recherche de cette théorie du contre-Sainte-Beuvre. Les œuvres créatrices sont l'œuvre d'un autre moi.
Et est-ce qu'on ne peut pas dire la même chose de la voix ? Quand on entend la voix de quelqu'un qu'on n'a jamais vu, on imagine un physique qui, parfois, ne lui correspond pas du tout.
Oui, ça, c'est un peu le même genre d'expérience, hein, cette expérience d'inquiétante étrangeté que nous rencontrons lorsque nous nous confrontons à la personne réelle. Vous voyez, Proust écrit ceci, « Tout le bergotte que j'avais lentement et délicatement élaboré moi-même, goutte à goutte, comme une stalactite, avec la transparente beauté de ses livres, ce bergotte-là se trouvait d'un seul coup ne plus pouvoir être d'aucun usage du moment qu'il fallait conserver le nez en colimaçon et utiliser la barbiche noire. » Mais c'est pas seulement le physique qui diffère complètement. C'est la voix, c'est la conversation de Bergotte. Le personnage mondain qu'il a en face de lui n'a aucun rapport avec l'écrivain qu'il connaissait.
Mais est-ce qu'on peut dire la même chose de vos propres livres, Pierre Bayard ?
Ah, ça, c'est à vous de l'évaluer. Je vous laisse la responsabilité. Mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est un exemple de l'application par Proust de la théorie de Janet. C'est le plus connu parce que vous en avez d'autres. Avec cette idée que le moi peut se fissurer, se disperser en plusieurs moi. Et je prends l'exemple de la disparition d'Albertine. Lorsque le narrateur découvre qu'Albertine est morte, il fait une expérience qui est traditionnelle, qui est celle du deuil. Mais avec cette différence par rapport à l'expérience que nous connaissons du deuil, c'est que c'est un deuil qui est fait de manière différente par tous les mois qui peuplent le narrateur.
Donc tout le monde à l'intérieur de lui n'est pas au courant au même moment.
Voilà. Ainsi, dit-il, à chaque instant, il y avait quelqu'un des innombrables et humbles moi qui nous composent, qui était ignorant encore du départ d'Albertine et à qui il fallait le notifier. Il fallait, ce qui était plus cruel que s'ils avaient été des étrangers et n'avaient pas emprunté ma sensibilité pour souffrir, annoncer le malheur qui venait d'arriver à tous ces êtres, à tous ces moi qui ne le savaient pas encore. Il fallait que chacun d'eux, à son tour, entendît pour la première fois ces mots « Albertine a demandé ses mal. » Et là, on est clairement dans le modèle des personnalités multiples. Il y a une forme d'inconscient, mais ce n'est absolument pas l'inconscient freudien. Et ça, c'est tout à fait constant chez Proust, qui va évoquer ce modèle en le travaillant sous diverses formes. Mais c'est un modèle alternatif qui est très intéressant et qui montre là encore l'intérêt de la psychanalyse pour nous autres qui faisons des sciences humaines, et surtout l'intérêt de la littérature qui, elle, aide ces sciences humaines à penser des modèles auxquels on n'aurait pas pensé.
Alors, je voulais justement vous poser une question à propos de la photographie que vous n'évoquez pas dans votre livre, mais on dit souvent que la photographie, c'est l'émergence de soi-même comme un autre, comme si la conscience que nous avons de notre identité subissait une distorsion chaque fois que nous regardons un cliché de nous-mêmes, comme si la photographie révélait un moi dont nous n'avons pas conscience.
Oui.
Et en même temps, si je prends une photo de moi enfant et que je la montre à des amis, je leur dirais « c'est moi ». Je leur dirais pas, c'était moi. Ça veut dire qu'il y a une sorte de permanence qui a fait que ce moi reste relié au mien.
Alors, moi, je serais tenté de garder de cette théorie des personnalités multiples l'idée qu'elle est valable lorsqu'il y a véritablement plusieurs personnes et pas des différences dans le moi. Que nous puissions changer d'humeur du matin au soir, nous comporter différemment, être violent avec telle personne, généreux avec telle autre, tout le monde le sait. Mais là, nous restons dans un modèle qui est un modèle psychologique classique, voire matiné, comme pour Freud, d'occurrence et d'émergence de l'inconscient. Le paradoxe de cette théorie des personnalités multiples, qui apparaît très bien chez Proust, c'est que nous avons véritablement affaire à des personnes différentes, qu'il faut considérer comme des gens différents, avec une histoire différente, un caractère différent, un physique différent. Ça paraît complètement invraisemblable, et pourtant, je serais tenté de dire, aussi absurde cette théorie puisse-t-elle sembler, elle n'est peut-être pas si fausse que ça, en tout cas pour certaines et certains d'entre nous.
Est-ce que on peut être, à l'occasion d'un choc, par exemple un deuil, remplacé par quelqu'un d'autre que soi ? Est-ce qu'on peut fabriquer ou se fabriquer plutôt ce que Proust appelait un moi de rechange ? Est-ce que vous, qui êtes psychanalyste, Vous avez déjà rencontré des personnes qui ont changé de moi à l'occasion ou en réponse à un choc traumatique?
Alors, j'évoque dans le livre un certain nombre de cas de figure. Hein. Vous avez un cas de figure assez classique si l'on essaie d'expérimenter cette théorie des personnalités multiples. C'est le modèle de l'alternance. C'est-à-dire au pôle de commandement, au pôle de direction du navire, vont alterner des personnalités différentes et qui vont varier suivant les contextes, suivant la personne avec qui on se trouve. Et vous avez un autre modèle hein, qui n'est plus celui de l'alternance, mais qui est celui de la succession. La personne avait un moi constitué et un autre moi lui succède. Et je prends un exemple hein, qui est lié à la dictature chilienne. J'évoque cette amie, Veronica Stang, qui a enquêté sur son oncle, qui est très connu au Chili. Cet oncle s'appelle El Fanta. Et il est très connu parce que c'était un résistant contre la dictature chilienne. Et à un moment, il a basculé du côté des bourreaux. Et donc, ça n'est pas, comme on le trouve d'ailleurs pour certains criminels de masse, une alternance entre le matin et le soir, etc. C'est vraiment la succession d'un moi à un autre moi. Et là aussi, on rejoint Proust, qui a étudié aussi ce cas de figure, avec un épisode qui m'a toujours beaucoup touché, qui est celui de Vinteuil. Vinteuil, c'est le musicien dans La recherche du temps perdu, l'équivalent de Bergotte dans l'écriture. Il y a une scène très connue au début de La recherche du temps perdu, où la fille de Vinteuil et son amie se moquent de Vinteuil et crachent sur la photo du musicien. Et bien après la mort de Vinteuil, ressurgit une œuvre qui était inconnue et qui est son chef-d'œuvre. Elle était inconnue parce qu'il en avait griffonné les brouillons. Et cette œuvre, c'est le Septuor de Vinteuil. Et le narrateur enquête et découvre que la personne qui a passé énormément de temps à reconstituer minutieusement ce Septuor, c'était l'ami de la fille de Vinteuil. Et la recherche abonde de cas de ces personnages qui se transforment complètement. Et là, on est toujours dans le phénomène des personnalités multiples, mais on n'est plus dans l'alternance, on est dans la succession. Nous pouvons nous transformer en quelqu'un d'autre au fil du temps, des événements que nous rencontrons, etc.
Mais dans le cas de ce monsieur que vous citez, qui a été résistant puis tortionnaire, est-ce qu'on peut expliquer cette transition de phase entre le premier état et le second?
J'essaie de proposer...
Parce que cette femme dont vous parlez a deux parents qui étaient eux-mêmes résistants.
Oui, voilà.
C'est l'oncle qui était au début résistant, puis bourreau.
Oui.
Est-ce qu'on peut comprendre ce qui lui est arrivé? Est-ce que ça s'explique causalement?
Ça reste un mystère. Hein. J'ai essayé d'évoquer un certain nombre d'hypothèses, mais Veronica Stange elle-même ne comprend pas, parce qu'elle va le rencontrer en prison une fois, et elle a vraiment l'impression de quelqu'un d'autre. Hein. Et ces phénomènes d'inquiétante étrangeté, on ne peut pas les expliquer complètement, mais finalement, la théorie des personnalités multiples en rend peut-être mieux compte que la psychanalyse, parce que dire simplement que El Fanta a laissé les pulsions de mort le déborder, c'est insuffisant pour expliquer le fait qu'il est une autre personne, qu'il n'est pas quelqu'un de resté unique, submergé par des pulsions, il est quelqu'un d'autre.
C'est pas qu'il a changé, il a été remplacé.
C'est ça l'idée des personnalités multiples. Alors je rassure les auditrices et les auditeurs, ça ne concerne évidemment pas forcément tout le monde.
Quelle
mais
proportion
c'est tout de même un modèle qui peut nous aider à penser.
Est-ce qu'on connaît la proportion de gens qui sont concernés par cette démultiplication du moi d'une façon ou d'une autre? Parce que quand vous l'expliquez, il y a de multiples façons d'avoir des personnalités multiples.
Alors, il faudra faire un sondage avec les auditrices et les auditeurs qui vont vous écrire. Mais peut-être plus que ce que l'on pense. Alors, je voudrais rappeler que cette théorie des personnalités multiples, donc avec Janet, elle a très peu de succès en France. Elle en a chez les écrivains, parce que eux connaissent bien cela. Ils se reconnaissent très bien, par exemple, dans la théorie de l'autre moi. Elle va disparaître, écrasée par la psychanalyse. Mais elle va ressurgir aux États-Unis dans les années 70. En particulier, grâce à un livre qui va avoir un énorme succès, qui est un livre dont le personnage principal s'appelle Sibyl, et qui est écrit par une psychiatre qui s'appelle Cornelia Wilbur. Et Cornelia Wilbur raconte comment, un jour, dans son cabinet, elle voit entrer une jeune femme avec laquelle elle commence un traitement. Et pendant la séance, la jeune femme se transforme en quelqu'un d'autre, de complètement différent. Physiquement, psychiquement, un être complètement colérique, alors que la personne qui était rentrée était très calme, etc. Et à la fin de la séance, la personne de substitution laisse la place à la personne qui est entrée. Et ce livre va connaître un énorme succès aux États-Unis, va être adapté au cinéma. Mais surtout, ce qui est intéressant, puisque vous me demandiez combien de personnes, c'est que des millions d'Américains non seulement vont aimer le livre, mais vont dire « Mais c'est moi, ça !»
Sibylle, c'est moi.
Il aurait fallu dire « C'est nous, ça !» Mais en tout cas, il faut dire... C'est-à-dire, ils vont se reconnaître dans cette théorie des personnalités multiples, alors qu'ils se sentaient isolés face aux troubles qu'ils vivaient jusqu'à présent. Ce qui est très intéressant, c'est de voir que quand on invente une étiquette, un concept, etc., on se contente pas d'écrire, mais on permet à des personnes de se créer elles-mêmes parce qu'elles se reconnaissent dans ce concept. Elles ne sont plus isolées, elles peuvent se dire, ah mais donc, puisqu'il y a un concept, d'autres personnes vivent la même chose. Et donc, je n'étais pas fou, je n'étais pas folle en imaginant que j'étais occupé par plusieurs personnes, puisqu'il y a des tas de gens qui vivent la même occupation intérieure.
Mais cette femme s'appelait donc Sibylle Dorset, et en fait, il s'est avéré qu'elle avait 16 personnalités différentes. Là, tout le monde ne peut pas revendiquer un tel...
Non, mais on est aux États-Unis, hein, donc...
C'est beaucoup, non?
On est aux États-Unis où tout le monde voit les choses en grand.
Un record difficile à battre, quand même.
Mais il a été par Billy Milligan, qui lui en avait 24. Et je ne suis pas sûr qu'il avait le record.
Est-ce qu'on peut savoir si les personnalités multiples comme celle qu'on évoque, là, cette fameuse Sibylle, choisissent la personnalité qu'elle manifeste à un moment donné, ou est-ce que c'est le hasard ou les circonstances qui décident?
Je crois qu'elles choisissent pas plus que nous choisissons d'être nous-mêmes. Elles se découvrent avec cette identité, cette histoire, ses symptômes, ses manies, etc.
Et moi, ça me fait penser à la physique quantique. On décrit les particules dans un état global qui est la somme de tous les états possibles qu'on peut obtenir quand on fait une mesure. Et si on fait une mesure, il n'y a qu'un seul de ces états qui se manifeste. Et ce qui a décidé du résultat A plutôt que B, c'est le hasard pur.
Alors, je vais être prudent en parlant de physique quantique, puisque je parle avec un spécialiste de la physique quantique, mais moi-même je suis très attaché à la physique quantique, avec ce que j'en ai compris, et à la théorie des univers parallèles, et j'évoque un moment, à partir de l'écrivain Volodine, l'hypothèse que ces différents mois qui coexisteraient dans la théorie des personnalités multiples tiennent peut-être à leur existence dans des univers parallèles. Mais je reviens, si vous permettez, sur Sibylle. 16, c'est beaucoup et c'est un peu ridicule. Mais cette théorie, non seulement aux États-Unis, va avoir un succès chez les lectrices et les lecteurs, mais elle va conduire à être utilisée par les avocats qui vont s'en emparer. Parce que si je suis plusieurs personnes, si j'en héberge que je ne contrôle pas, il n'y a aucune raison dans une démocratie que je paye pour mon locataire ou pour le voisin. Ça, c'est dans les dictatures et les régimes totalitaires. Si quelqu'un a commis un méfait, on embarque toute la famille. Pas dans les démocraties, où on tient à la responsabilité individuelle. Et là où ça devient absolument fou, c'est que les avocats vont s'en emparer et vont parvenir à faire acquitter leurs clients, le cas le plus célèbre étant ce Billy Milligan, qui a donné lieu au film Split, qui va être acquitté de viol, parce que l'avocat va montrer que c'est pas lui, c'est quelqu'un qui l'occupe. Donc il a aucune raison qu'il soit condamné. Mais tout ça prête à sourire, mais la théorie des personnalités multiples va être intégrée au manuel de psychiatrie internationale à la fin des années 70. C'est ce qu'on appelle le DSM. Il va rentrer dans le DSM-3, c'est-à-dire que les Américains qui dominent la psychiatrie internationale vont reconnaître, à côté de troubles que nous connaissons bien, l'hystérie, la névrose obsessionnelle, la paranoïa, la schizophrénie, vont reconnaître le trouble dissociatif de l'identité, le TDI, comme étant véritablement un trouble qui a sa légitimité. Alors je crois que suite en particulier au débordement de la justice, il est aujourd'hui moins utilisé aux États-Unis, mais il est encore reconnu comme un trouble existant. Et un nombre non négligeable d'Américains se reconnaissent dans cette catégorie, ce qui n'est pas possible en France, parce qu'il n'est pas reconnu en France. Et tant qu'un symptôme n'est pas reconnu, il est difficile de s'identifier complètement à ce symptôme, parce qu'on a l'impression d'avoir quelque chose qui nous est totalement particulier, et non pas qui mérite d'être conceptualisé.
Je reviens à Sibylle Pierre Bayard. Vous dites que elle a été victime de maltraitance quand elle était jeune. Elle avait une mère schizophrène qui l'a soumise à des séances de torture physique. Son père ne la protégeait pas. Et est-ce qu'on peut défendre l'idée que la démultiplication des personnalités soit une sorte de protection que la psyché produit pour finalement gérer ses traumas?
Alors, c'est en effet hein, l'hypothèse qui est avancée par les spécialistes de ce TDI, trouble dissociatif de l'identité, qui ont reconnu très souvent, chez les personnes qui en étaient atteintes, des violences contre elles commises dans l'enfance. Donc, là, ce que vous suggérez là, que cette dissociation serait une manière de se protéger, est tout à fait reconnue. Alors, en France, cette théorie n'a pas d'existence réelle. Hein, et je pense que les Américains en ont fait quelque chose qui est largement fictionnel. Mais est-elle si fausse que ça? Sans imaginer que nous ayons 20 ou 30 ou 40 personnalités, est-il si inexact de suggérer qu'à certains moments, certains et certains d'entre nous occupent des postes différents dans le psychisme et représentent des personnalités différentes? Il y a un exemple qui m'a beaucoup marqué dans l'actualité. J'avais déjà écrit le livre, mais c'est l'exemple de l'abbé Pierre, qui est tout de même absolument sidérant avec cet homme ou ces hommes dont l'un est un saint, une générosité extraordinaire, et l'autre est le prédateur que vous connaissez. Mais ce qui m'avait beaucoup marqué dans cette histoire, c'est une lettre que j'avais lue dans la presse, dans laquelle l'abbé Pierre répondait à l'une de ses victimes qui menaçait de le traîner en justice. Et cette lettre était absolument scandalisée. Comment pouvez-vous m'accuser de crimes aussi affreux? Alors évidemment, les journalistes ou ceux qui ont fait paraître cette lettre disaient « mais quelle hypocrisie !» Mais moi, j'étais quand même très frappé par son ton de sincérité. Comme si vraiment, il n'avait que peu de communication avec l'autre Pierre. Bon, évidemment qu'il en avait certainement. Mais quelque chose de caractéristique chez ces personnes, et vous l'évoquiez tout à l'heure en commençant, c'est la relative ignorance dans laquelle elles se trouvent des autres qui l'habitent. Et moi, j'en ai rencontré plusieurs hein, dans mon existence, des collègues par exemple, qui étaient vraiment complètement différents suivant les contextes, au point qu'on avait l'impression que c'était pas la même personne. Et il y a une romancière qui a mis en scène cela remarquablement. Elle a eu son heure de gloire, elle est un peu moins connue aujourd'hui. C'est Doris Lessing, qui est prix Nobel, hein, auteur du Carnet d'or.
Avec ses multiples carnets avant le Carnet d'or.
D'ailleurs, le livre lui-même déjà est décomposé en plusieurs. Hein. Et elle montre très bien, y compris dans la vie privée, ce que c'est que d'être confronté à quelqu'un qui a une personnalité multiple. Elle raconte un moment comment elle voit son compagnon descendre l'escalier de la chambre et elle se demande, mais avec lequel vais-je dialoguer tout à l'heure, tellement il est différent. Je prends un autre exemple. Il se mit à parler, dit-elle. Je dis « il » en présumant que je peux isoler une personnalité, qu'il existe un « il » qui représente l'homme réel. Mais de quel droit puis-je affirmer qu'une de ses personnalités est plus lui-même que les autres? Et son livre est vraiment une réflexion très intéressante, inspirée de la théorie des personnalités multiples, sur le fait que nous pouvons être divisés en plusieurs personnes. Et elle fait cette remarque très juste, le « il » dans le texte que j'ai lu là est en italique, que ce sont les pronoms personnels qui nous trompent, depuis Descartes, parce que nous avons tendance à dire « je ». Et dès que nous disons « je », nous produisons un regroupement entre différents « je » qui perdent leur identité. Et évidemment, l'intérêt de cette théorie des personnalités multiples, c'est d'accepter cette idée qu'il y a peut-être plusieurs « je » en nous. Freud avait ouvert la voie, la théorie des personnalités multiples fait un pas de plus.
Pierre Bayard, est-ce qu'on peut pas considérer que, même si on a conscience d'avoir un « moi » relativement unifié, c'est parce que on n'a pas rencontré toutes sortes de circonstances qui pourraient révéler des parts de nous-mêmes qui nous sont cachées dans la vie ordinaire.
Oui.
En deux exemples, l'alpinisme. Quand tout va bien, les gens qui sont encordés ont des personnalités qui ressemblent à celles qui sont dans la vallée. Mais si les circonstances changent, deviennent dangereuses, dramatiques, on peut voir des sortes de bifurcations psychiques qui font que les gens découvrent une face d'eux-mêmes qui leur a été cachée jusqu'alors. Et puis récemment, j'entendais le général Guillaume Lecointre évoquer les combats que certains soldats qu'il avait dirigés menaient en corps à corps. Et le corps à corps, c'est une expérience extrême dans laquelle aucun humain ne peut savoir à l'avance comment il se comporterait psychiquement s'il était mis dans une telle situation.
Oui, je vous rejoins tout à fait. Hein. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Aurais-je été résistant au bourreau ?» dans lequel je faisais une autre expérience de pensée, cette fois historique, consistant à me demander comment je me serais comporté en 1940. Je crois que beaucoup de gens de ma génération qui sont nés après la guerre se sont posé cette question qui était inévitable et dont la réponse est vraiment indécidable. Et quand on examine la manière dont les gens se comportent en 40 et découvre ce que j'appelle leur personnalité potentielle, donc une personne qu'ils ne connaissent pas vraiment, on peut être très surpris. Un des exemples qui me touche le plus, c'est celui de Daniel Cordier. Il y a eu une exposition il y a quelques mois à Paris sur le secrétaire de Jean Moulin, qui est maurrassien et antisémite. Et il part à Londres rejoindre le général de Gaulle. Donc c'est très intéressant d'étudier ces cas dans lesquels l'effritement des valeurs et la situation de crise nous confrontent à une personne que nous ne connaissons pas, ce que j'appelle la personnalité potentielle. Mais c'est quand même sans doute un cas un peu différent, hein, parce que toutes ces personnalités multiples, elles existent chez certaines personnes, indépendamment des situations de crise. Donc la question de ce que nous sommes en profondeur, elle ne se pose que dans des situations de violence extrême contre les valeurs, et on peut espérer ne pas nous trouver dans la situation de découvrir ce que nous sommes en profondeur, ou alors si on rejoint la théorie des personnalités multiples, laquelle va prendre le pas sur les autres.
Mais est-ce qu'on ne peut pas imaginer qu'il y a une forme de cohérence globale, quand même, si on prend l'exemple de Daniel Cordier, certes, il a changé d'opinion au cours de son existence, mais est-ce qu'il n'y a pas un trait de caractère qui explique à lui-même, à lui seul, ces changements ?
Alors, je crois qu'il y a tous les cas de figure. Hein, il y a certainement des gens qui restent dans le modèle cartésien, il y en a d'autres qui obéissent au modèle freudien. Il y en a d'autres auxquels, je pense, la théorie des personnalités multiples, sans aller jusqu'à ce que je considère comme des excès aux États-Unis, même s'ils sont drôles, je pense qu'il y a des gens pour lesquels ça fonctionne assez bien. Moi, je suis très attentif au fait que les modèles en sciences humaines ne doivent pas être rigides. Je serais tenté de dire que le but d'une psychanalyse, c'est que chacun découvre le modèle qui lui convient le mieux, et même construise son propre modèle. Moi, le modèle qui me paraît le plus efficace et que j'utilise le plus, c'est le modèle freudien. En ce sens, je suis assez conservateur. Mais les autres modèles m'intéressent. Parce que c'est intéressant d'imaginer comment les sciences humaines auraient pu être différentes et pourquoi certains modèles conviennent sans doute mieux à certaines personnes qu'à d'autres.
Alors, si j'ai parlé de cohérence globale, c'est parce que Pierre Bayard, dans votre livre, il y a un chapitre que j'ai trouvé incroyable sur Clint Eastwood. Vous montrez que dans son film de 2014, qui s'intitule American Sniper, il révèle une part de lui-même qui contredit presque l'ensemble de son œuvre.
Alors, par ailleurs, certains sont peut-être surpris de voir Clint Eastwood coexister avec Pessoa ou Volodine. Moi, je pense que c'est un
très grand cinéaste. Pas dans vos livres.
Oui, je pense que c'est un très grand cinéaste d'une part, et puis d'autre part, je me suis posé la question des différences sensibles entre différentes œuvres. J'avais été assez choqué par ce film qui s'appelle Sniper, qui raconte l'engagement d'un sniper américain dans la guerre contre les Irakiens. Non pas qu'il soit illégitime de raconter la vie d'un sniper, mais par la manière dont Clint Eastwood décrivait les Irakiens. De manière extrêmement manichéenne, comme des animaux en quelque sorte. Donc pour moi, c'est un film qui est très difficile à regarder. Et le même Clint Eastwood, d'abord, consacre toute une partie de son œuvre à dénoncer les abus de la justice américaine, et d'autre part, est capable, dans certaines de ses œuvres, de faire preuve d'une empathie absolument remarquable. Et là, je pense à un diptyque qui est peut-être insuffisamment connu, qui est consacré à la guerre américano-japonaise. Deux films dans lesquels il raconte le même épisode, qui est l'épisode de la prise de l'île d'Iwo Jima à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est remarquable dans ce diptyque, et peut-être jamais fait jusqu'alors, c'est de faire deux films pour décrire le point de vue des deux belligérants. Le premier film s'appelle « Mémoire de nos pères », et il raconte le point de vue américain. Et le second film s'appelle « Lettre d'Iwo Jima », et il raconte la même bataille du point de vue des Japonais. Avec une empathie absolument remarquable, car ces Japonais nous sont décrits de telle manière qu'on les comprend tout à fait, de surcroît ils sont très pro-américains, certains ont fait leurs études aux États-Unis, ils savent qu'ils vont mourir, ils sont totalement hostiles manifestement à l'empereur. Ce sont évidemment des gens comme nous. Mais c'est remarquable de faire comprendre qu'il y a des gens comme nous des deux côtés. Et ça, c'est Clint Eastwood. Mais je serais tenté de dire, c'est un Clint Eastwood qui a une carte du Parti démocrate, alors qu'un autre a une carte du Parti républicain.
Mais peut-être que dans le film Sniper, American Sniper, il a voulu prendre le point de vue du sniper lui-même.
Oui, écoutez, je suis sensible à votre souci de défendre ce film.
Non, je ne le défends pas. Mais... Je dis que Clint Eastwood, c'est ce que vous dites dans le livre, il est globalement nuancé, mais pour le savoir, oui, il faut voir tous ses films.
Oui, oui, ça c'est vrai que il y a une œuvre qui est multiforme, hein, comme le personnage lui-même semble multiforme.
Évidemment, il y a le personnage de Romain Gary qui pose question à propos de personnalités multiples. Est-ce qu'on peut considérer que Romain Gary et Émile Ajar sont le même écrivain, ou est-ce que la façon d'écrire révèle des personnalités différentes?
Alors ça nous conduit à une question qui était évidemment impossible de contourner, qui est celle des pseudonymes, puisque les écrivaines, les écrivains sont très familiers de l'utilisation de pseudonymes. Moi, je pense que il y a une multitude de cas. Vous avez des prises de pseudonymes qui relèvent d'un jeu, ou bien d'une volonté commerciale, ou bien dans certains pays d'un souci de se protéger. Mais dans certains cas, je pense que l'usage de pseudonymes correspond au fait que l'écrivain se sent vraiment divisé entre plusieurs personnes. Je serais tenté de mettre Romain Gary, en tout cas pour l'affaire Ajar, puisqu'il avait déjà fait deux tentatives, probablement plutôt sur un mode ludique. Je serais tenté de mettre Gary Ajar sur ce second cas de figure, dans la mesure où non seulement vous avez des auteurs différents, mais ce qui est tout à fait remarquable, et ce qui fait qu'il n'a pas été pris pendant de son vivant, c'est que les écritures sont sensiblement différentes. Au point qu'il y a des scènes dans lesquelles des journalistes, sachant que Gary était proche de l'auteur présumé, Paul Pavlovitch, vont dire Paul Pavlovitch, enfin Ajar, c'est quand même un tout autre talent que Gary. Et très peu de lecteurs, lectrices ont repéré qu'il s'agissait du même auteur. Donc, dans un cas comme celui-là, je serais tenté de dire que ce n'est pas par jeu, mais c'est véritablement parce que l'auteur sent qu'il est constitué de personnalités différentes. Et d'ailleurs, je commence le livre par une phrase de Romain Gary. « Lorsqu'on dit de moi, c'est une forte personnalité, cela m'étonne. Des personnalités, j'en ai 20, et je ne vois pas comment un conflit constant entre elles pourrait donner une seule forte personnalité. » Réponse humoristique, je crois que Gary se reconnaissait complètement dans cette théorie des personnalités multiples, ce qui ne l'empêchait pas d'avoir, sur le plan politique, une personnalité potentiel très ferme, parce que lui, en 40, n'a pas hésité.
Mais est-ce que Pessoa, c'est pas Romain Gary à la puissance 10?
Peut-être pas à la puissance 10, mais il est vraisemblable aussi que... Alors, il avait quatre hétéronymes, et puis une multitude d'autres. Là, je pense que, comme pour Gary, ce sont des gens qui ressentent vraiment cette multiplicité avec une certaine forme de souffrance, ce qui va dans le sens du fait que cette théorie fonctionne bien avec certaines personnes, pas avec tout le monde, mais avec certaines personnes, et surtout peut-être utile dans notre dialogue avec les autres. Parce que si vous n'avez pas conscience que quelquefois vous ne vous adressez pas à la même personne que la veille, vous risquez de provoquer des malentendus. Et mon livre vise à pacifier les relations entre les gens en essayant de dissiper les malentendus.
Il y a une situation que vous n'évoquez pas, mais à propos de laquelle j'aimerais avoir votre avis, c'est celle des polyglottes. Les gens qui parlent très bien plusieurs langues sans accent. Quand on les connaît bien, mais qu'on les entend parler successivement dans ces différentes langues, on a l'impression qu'ils deviennent autres que leur personnalité est modifiée par le choix qu'ils ont fait de parler telle langue plutôt que telle autre.
Comme je n'ai jamais été capable d'apprendre la moindre langue étrangère de façon un peu correcte, je ne connais pas cette expérience, mais j'en ai fait. On a vraiment l'impression, que certaines personnes se transforment suivant la langue qu'elles parlent.
Oui. Et l'accent, parce que Derrida disait qu'avoir un accent, c'est être en flagrant délit avec soi-même.
Une très belle formule, oui.
Alors, est-ce que c'est une pathologie, Pierre Bayard?
En tant que psychanalyste, je suis très méfiant envers toutes les étiquettes, les catégories ou les concepts qui paraissent dévalorisants. Donc, je ne parlerai pas d'une pathologie. Je me suis demandé comment j'allais en parler. Et finalement, l'expression qui me convient le mieux, c'est l'expression de trouble. Parce que je pense qu'on est tous troublés à un moment ou à un autre, je le suis en ce moment. Et donc, parler d'un trouble plutôt que d'une pathologie est quelque chose qui me paraît plus respectueux des personnes. C'est probablement ainsi que quand parlerai l'une des écrivaines incontournables, parce que vraiment elle incarnait cette multiplicité psychique, qui est Anaïs Nin, qui avait une vie multiforme.
À qui vous consacrez un chapitre ?
Oui, et qui avait une vie multiforme. Elle avait de nombreux amants simultanés. Elle avait même deux maris pendant toute la dernière partie de sa vie, mais des maris avec passage devant l'état civil. Elle en avait un sur la côte est, un sur la côte ouest. Et du coup, elle avait pris deux psys, un psy sur la côte est, un psy sur la côte ouest. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'Anaïs Nin le vit très bien. Et elle n'aurait pas parlé d'une pathologie, elle aurait peut-être parlé de trouble. Elle le vit très bien et elle se réclame de Proust. Elle dit très clairement que sa représentation de la vie avec les autres, du psychisme, est proustienne. Alors évidemment, ça l'a conduit à un certain nombre de précautions. Je les recommande aux éditrices et aux auditeurs qui se reconnaîtraient dans ce trouble de la personnalité multiple. Par exemple, elle a ce qu'elle appelle une boîte à mensonges dans laquelle elle a des fiches qu'elle porte toujours avec elle sur ce qu'elle a raconté aux différentes personnes qu'elle fréquente. Et quand elle rencontre quelqu'un, par exemple dans un restaurant, elle demande 5 minutes pour relire quelque chose, elle relit la fiche, ce qui lui permet de reprendre le roman à l'endroit où il était et de ne pas embrouiller l'autre ou le perturber en se trompant de personne. Et elle pratique la même chose avec son journal. C'est surtout par son journal qu'elle est passée à la postérité. Un journal qui est mobile, puisqu'elle ne cesse de revenir sur les pages de son journal en les transformant. Ce qui est assez logique, puisque ce n'est pas forcément la même personne qui relit le journal que la personne qui l'a écrit, donc il est tout à fait logique que cette autre personne intervienne pour faire valoir son point de vue. Mais encore une fois, je reviens sur votre proposition de pathologie, ce qui est très intéressant chez elle, c'est qu'elle ne vit pas ça du tout sur un mode pathologique, et les psys qu'elle va prendre vont lui suggérer de se réunir elle-même. Elle-même va toujours refuser, considérant que c'est plutôt une richesse d'être multiple que d'être unique. Et évidemment, mon livre va plutôt dans ce sens, d'encourager les personnes qui ont ce trouble de se percevoir comme riches et non comme atteintes d'une quelconque maladie.
Mais est-ce que ce trouble n'est pas nécessaire pour exercer certaines professions, par exemple espion? Vous parlez de Graham Greene, qui a écrit Le Troisième Homme, qui lui-même était écrivain, mais aussi espion. Alors, capable de jouer des rôles différents, dans des contextes différents.
Alors, je vais vous répondre.
Qui n'est pas à la portée de tout le monde.
Oui, je vais vous répondre en faisant un détour par le cas qui m'a le plus frappé, parce que je l'évoquais tout à l'heure. C'est une digression, mais je vais répondre à votre question. Je l'évoquais tout à l'heure, c'est l'exemple de Dominique Horry. Je vous disais tout à l'heure que j'avais vécu l'exemple de Bergotte. Quand j'étais en 79 aux éditions Gallimard, où je faisais un stage d'agrégation, il y avait dans le même bureau que moi, le bureau de la NRF, une femme assez âgée, petite, très discrète, vêtue de noir, etc. Et un jour, la secrétaire de la revue, avec laquelle j'avais noué des relations amicales, me dit « Mais tu sais cette femme ?» Très discrète, il ne se fait pas du tout remarquer, c'est Pauline Réage. Pauline Réage, alors je ne sais pas si les auditrices et les éditeurs voient de qui il s'agit, c'est l'histoire d'un roman qui s'appelle Histoire d'eau, hein, qui a été un énorme succès de scandale. Bon, aujourd'hui, je pense qu'on l'enseignerait en primaire, mais quand même, à l'époque, c'était quand même un tel choc, il a été interdit pendant des années. Le roman très clair sur les relations sexuelles, mais en plus, c'est un roman SM, sadomaso, avec en plus une place de la femme vraiment dégradée à l'état d'objet. Et le roman a eu un succès énorme. Mais quand j'étais chez Gallimard, personne ne connaissait l'identité de Pauline Réage. Sauf chez Gallimard, j'imagine, où tout le monde le savait. Et moi, j'étais absolument ahuri. Je ne suis jamais revenu de mon étonnement de savoir que cette femme, c'était Pauline Réage.
C'était Bergotte.
D'autant plus que Dominique Horry, hein, les textes qu'elle avait publiés, c'était par exemple une anthologie de la poésie religieuse. On était vraiment dans le grand écart, le plus grand possible. Et alors, dans certains textes où elle parle d'elle, parce qu'à la fin de sa vie, elle a commencé à reconnaître implicitement qu'elle était bien Pauline Réage, elle emploie l'expression d'un autre moi. Connaissant la culture de Dominique Horry, il est évident que c'est une expression qu'elle avait.
Mais est-ce que vous l'avez vue alors que vous saviez qu'elle était l'auteur d'Histoire d'eau?
Alors, à partir de ce moment-là, je l'ai su.
Et est-ce que ça a changé vos relations avec elle?
J'étais extrêmement timide à l'époque, je suis resté encore, mais j'étais extrêmement timide. Je m'en veux toujours de ne pas avoir eu la force de lui proposer d'aller prendre un café. J'étais totalement tétanisé. C'était invraisemblable. Pour tout le monde à l'époque, il ne faisait absolument aucun doute que de toute façon, Histoire d'eau avait été écrite par un homme. Personne n'avait jamais supposé que ça pouvait être une femme. Et le nom qui circulait le plus, c'était celui de Jean Paulhan. Voilà, il y avait une sorte de consensus. C'était pas Jean Paulhan, c'était sa compagne qui l'avait écrit. Mais alors, je reviens à votre question, parce que je précise très bien les choses. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Dominique Gory avait eu une activité de résistante. Et donc, elle avait repris un autre nom. Mais je dis très clairement, pour répondre à votre question sur les espions, le résistant n'est pas une personnalité multiple, parce qu'il sait très bien l'autre personne qu'il est, même s'il n'a pas le même nom. Il n'y a pas cette imperméabilité entre les personnes que j'ai évoquée, par exemple, à propos de l'abbé Pierre. Quand vous vous cachez, quand vous jouez un rôle, quand vous êtes au théâtre, ou même quand vous jouez un rôle dans les médias, etc., vous savez que vous jouez un rôle. Ce qui est très étonnant dans ce cas des personnalités multiples, c'est que certaines personnes ignorent l'existence de l'autre. Et donc, pour répondre à votre question, oui, je ferai vraiment une différence sensible entre l'espion, la résistante, etc., et la personnalité multiple.
Et Graham Greene, alors ?
Alors, Graham Greene, lui aussi, il y avait... C'est un cas qui est d'autant plus intéressant que lui-même avait une activité d'agent secret. Mais là, je serais tenté de dire que dans cette activité d'agent secret, il n'était pas une personnalité multiple dans la mesure où il savait très bien qu'il avait une apparence mondaine et une réalité plus cachée. En revanche, dans Le Troisième Homme, il est très intéressant de voir comment le personnage principal, celui d'un écrivain qui vient retrouver son ami à Vienne et va découvrir que c'est un tueur en série, lui-même, hein, Rollo Martins, fonctionne comme une personnalité multiple. Ce dispositif que j'ai appelé tout à l'heure celui d'alternance, qui n'est pas le dispositif de succession. Il est tantôt Rollo, tantôt Martins. Et il est décrit par Graham Greene comme étant vraiment divisé dans le temps entre ces deux personnalités.
Mais vous dites aussi que les conflits de loyauté peuvent nous, en quelque sorte, nous saucissonner, enfin saucissonner notre moi.
Ah oui, le conflit de loyauté, hein, que j'ai pas mal étudié, par exemple, dans Rajet et résistant bourreau ou dans les autres volumes, c'est un conflit très intéressant du point de vue de la philosophie morale, puisqu'il nous confronte à la nécessité d'un choix, ce que vous avez appelé tout à l'heure une bifurcation, entre des valeurs que nous respectons dans les deux cas, mais qui s'opposent. Et là, on est en effet contraint de choisir entre différentes personnalités. Mais là encore, hein, je mettrai les personnalités multiples à part, parce que c'est en toute conscience que nous allons faire le choix d'apparaître sous tel aspect ou sous tel autre. Ce n'est pas un autre être qui nous habite, ou plusieurs êtres qui nous habitent, comme dans le cas des personnalités multiples. On n'est pas dans le modèle Hyde de Stevenson.
Non, mais tout le monde n'a pas la capacité de jouer la comédie comme le font les comédiens, qui sont capables d'épouser des personnages, des personnalités à la demande. Ça demande quand même... une certaine disposition. Et vous dites d'ailleurs que c'est la même chose pour les hommes politiques, ou les femmes politiques, qui doivent jouer des rôles selon les circonstances, qui les écartent d'eux-mêmes.
Alors, peut-être que ce sont des rôles, peut-être aussi, je vous disais que mon livre visait à apporter le plus de paix sociale, à pacifier les relations. C'est vrai que si l'on suit le modèle des personnalités multiples, c'est pas forcément des rôles. Ça peut être aussi des personnes différentes, et je propose d'être plus bienveillant envers les personnes du personnel politique qui donnent le sentiment de se contredire, parce que peut-être que ce n'est tout simplement pas la même personne. Dans le même ordre d'idées, hein,
l'adultère.
Je suggère aussi d'être un peu plus bienveillant envers les compagnons ou les compagnes quand nous découvrons qu'ils ont des relations adultérines, dans la mesure où c'est pas nécessairement la personne que nous avons en face de nous qui est responsable. Tout ça peut paraître assez étonnant, mais encore une fois, les Américains, et là encore une fois que rien n'arrête, sont allés dans cette direction, dans le domaine de la justice, en prenant au sérieux la question des personnalités multiples, et en acquittant des malfaiteurs qui avaient, s'étaient référés à cette théorie, et qui expliquaient que la personne qui était dans le box n'était pas celle qui avait commis le délit.
Pierre Bayard, je sais que vous aimez les expériences de pensée, vous en faites sans arrêt dans vos livres, alors je vous en propose une. Imaginons une société humaine dans laquelle tous les citoyens ont ce trouble de personnalité multiple. Que devient la justice ? Que devient la loi ? Qui met-on en prison ?
Il est clair que le modèle des personnalités multiples, et on peut se réjouir qu'il ait finalement, au moins du point de vue judiciaire, qu'il n'ait pas été retenu par...
Mais je suggère que dans cette expérience, les juges aussi aient des personnalités multiples.
Il est évident qu'avec ce modèle...
C'est le chaos.
C'est le chaos, bien sûr. Il faut supposer une certaine unicité de l'être humain pour pouvoir rendre la justice. Et même dans le modèle intermédiaire qui est celui du coup de folie, qui est valable en droit pénal, hein, vous voyez bien comment l'unité du moi est brisée et les victimes vont évidemment se sentir lésées du fait qu'on ait accepté l'idée que la criminelle puisse être un moment dissocié. La dissociation prônée par la théorie des personnalités multiples conduit évidemment à un désordre général.
Il y a quelques semaines, nous recevions à ce même micro Stéphane Charpier, neuroscientifique, qui expliquait que lorsque nous prenons une décision, quand elle accède à notre conscience, on a l'impression d'avoir réfléchi, et notre réflexion a abouti à une prise de décision consciente. Mais il expliquait qu'en fait, avant que cette décision apparaisse dans notre conscience, il y a eu une activité neuronale qui a déterminé secrètement le choix que nous croyons être le nôtre. Autrement dit, notre cerveau n'en a fait qu'à sa tête. Donc ça veut dire que si on ajoute ce qu'il dit là à ce que vous dites vous sur les personnalités multiples, on a l'impression que nous sommes rarement responsables de nos actes et de nos choix.
Sans aller jusqu'aux dernières découvertes de la neurologie, on ne peut pas être psychanalyste et juge. Plus vous entrez dans la connaissance de l'inconscient de l'autre, et plus vous êtes tenté de le comprendre. Non seulement de le comprendre lui, mais de comprendre que vous-même, vous n'êtes pas fondamentalement différent. Et donc la justice fait l'impasse nécessairement sur la division freudienne ou sur la multiplicité des personnalités multiples. Elle le fait un temps, sinon il n'est plus possible de rendre la justice.
Pierre Bayard, vous êtes professeur de littérature émérite à l'Université Paris 8. Comment ce que vous avez étudié à propos des personnalités multiples change le regard qu'il faut porter sur les œuvres littéraires ?
Vous savez, le biographe de Pessoa se demande sérieusement, au moment de travailler, s'il ne va pas écrire plusieurs biographies. Et moi, je revendique
une pour
dans
chaque.
Le livre le principe de la multibiographie pour respecter les différentes personnalités. Vous parliez tout à l'heure de la justice qui n'est plus possible de rendre si on tient compte des théories de la dissociation du moi. Je serais tenté de dire que la critique et la théorie littéraire deviennent beaucoup plus difficiles puisqu'il faudrait écrire des multibiographies, il faudrait dégrouper les auteurs. Je propose à un moment de tenir compte d'un passage de Flaubert dans lequel il dit clairement qu'il est lui-même une personnalité multiple, lorsqu'il dit « Il y a en moi deux bons hommes distincts, un qui est épris de gueulade, de lyrisme, de grand vol d'aigle, de toutes les sonorités de la phrase et des sommets de l'idée, un autre qui creuse et fouille le vrai tant qu'il peut. » Donc à la limite, il faudrait dissocier les auteurs, ce qui pourrait d'ailleurs ouvrir à de nouvelles thèses. Plusieurs thèses suivant les différents Flaubert, plusieurs thèses suivant les différents Zola, etc.
On n'est pas sorti de l'auberge.
Des auberges.
Des auberges. Merci Pierre Bayard d'être venu à la conversation scientifique. Je recommande très chaleureusement la lecture de votre livre qui s'intitule « Je somme plusieurs », sous-titre sur les personnalités multiples qui vient de paraître aux éditions de Minuit dans une collection qui s'appelle « Paradoxe ». Et je pense que c'est un nom bien choisi. Merci à vous, c'était la conversation scientifique avec la collaboration de Thierry Beauchamp à la réalisation et la mise en onde Souad Boukorsa.